Vous écoutez France Culture.
À quelles capacités stratégiques européennes réfléchir? Qui verse et combien dans les caisses de l'OTAN? Ce sont les deux enjeux affichés du tête-à-tête Emmanuel Macron-Donald Trump. Tête à tête précédé d'un tweet acide, précision dans un instant de Bertrand Galichet. Manifestation cet après-midi à Marseille, dans le quartier endeuillé de Noailles, 5 jours après l'effondrement de 2 immeubles insalubres. 8 victimes selon un dernier bilan. Au Yémen, la prise par la coalition sous commandement saoudien du principal hôpital de la ville de Daïda aux mains des Houthis, réaction de l'ONG Salam for Yémen. Puis la Bulle Écho s'empare du feuilleton budget italien versus commission européenne. Comment sortir du dialogue de sourds. Commémorer les 100 ans de la Grande Guerre tout en réanimant un multilatéralisme pilonné par Washington, sans oublier d'œuvrer à la paix au cœur d'une Europe parcourue par des brumes nationalistes. Le président de la République française marche en panthère-beuse. Le dernier épisode en date, tiens, c'est l'usage désormais, en un tweet rageur de Donald Trump qui s'en est pris hier soir à Emmanuel Macron et son projet d'armée européenne. Bonjour Bertrand Galichet.
Bonjour.
Vous êtes en direct de l'Élysée. Bertrand, quelques minutes avant l'entretien entre les deux hommes, apaisement de part et d'autre.
Oui, l'opération déminage a commencé avant même l'entretien en tête-à-tête entre les deux dirigeants. En sortant de la limousine présidentielle dans la cour de l'Élysée, Donald Trump, la mine un peu renfrognée, est accueilli par Emmanuel Macron sous une pluie légère. Les deux dirigeants se saluent aussi chaleureusement que possible après l'épisode du tweet d'hier soir, auquel l'Élysée s'est bien gardé de répondre sur le même ton. Et tout de suite, à l'intérieur du palais, devant une caméra, il tente de dissiper le sujet qui fâche.
Nous célébrons ici la formidable solidarité qu'il y a eu entre nous qui sommes parmi les deux plus vieux alliés du monde. Ensuite, nous allons évidemment parler de beaucoup de sujets d'intérêt commun. Et bien évidemment, je vais aussi partager avec le président Trump les propositions faites sur les capacités stratégiques européennes et une Europe qui puisse prendre davantage la part du fardeau commun au sein de l'OTAN. En tout cas, je suis très heureux à nouveau d'accueillir mon ami le président Trump.
Un thème sur lequel Donald Trump renchérit en évoquant un partage équitable de la défense européenne à laquelle les États-Unis veulent toujours contribuer, dit-il, manifestement une volonté commune d'apaisement après le quasi-incident diplomatique d'hier soir, même si le président américain affiche une volonté de garder la main en insistant sur ses propres thèmes de prédilection, le commerce et la lutte contre le terrorisme. Une ambiance un peu guindée, donc, comme une réconciliation forcée par les circonstances.
Merci à vous, Bertrand Galichet, accompagné que vous êtes de Raymond Albouy. Nous sommes en ligne avec le directeur de l'IRIS, Pascal Boniface. Bonjour, monsieur.
Bonjour.
Pascal Boniface, divorce, dispute, coup de froid passager. C'est quoi le sujet qui fâche, comme on vient de l'entendre?
Alors, le sujet qui fâche, c'est en fait non pas tellement le partage du fardeau que le pouvoir de décision. Trump voudrait que les Européens payent plus pour leur défense, sans pour autant qu'ils augmentent leur pouvoir de décision. Alors qu'Emmanuel Macron est d'accord pour l'augmentation des dépenses des pays européens, mais à condition qu'il puisse peser. Or, on n'a jamais eu un président américain qui écoute aussi peu ses alliés européens, et c'est bien là le problème.
Alors, le président américain, qui semble-t-il, n'a manifestement que des rapports marchands. C'est une façon, comment dire, pertinente de définir l'approche qu'est celle de Donald Trump?
Oui, effectivement, non seulement des rapports marchands, mais surtout, en fait, une concentration sur les intérêts du complexe militaro-industriel américain. Il a très fortement augmenté les dépenses militaires américaines de 2 fois 60 milliards de dollars en 2 ans. Et surtout, ce qu'il veut, c'est que les autres pays achètent des armes aux États-Unis. Et pour cela, la stratégie de tension qu'il utilise est assez payante parce que lorsque les tensions augmentent, les pays qui n'ont pas d'industrie d'armement se tournent vers les États-Unis. Et on a vu récemment, alors que Donald Trump a largement insulté les Européens, que les Belges, finalement, ont accepté d'acheter, non pas des avions européens, il y avait 2 choix possibles, mais acheter des F-35 américains. Donc, du côté de Trump, il a le sentiment, qui n'est pas tout à fait faux, que plus il tape du poing sur la table, plus les Européens obéissent.
Pascal Boniface, qu'est-ce qui a, selon vous, précipité par le fond la relation transatlantique? La sortie de l'accord sur le nucléaire iranien?
Oh, c'est un ensemble, c'est disons plutôt une vision du monde, une vision ultra-unilatéraliste. Tous les présidents américains mélangent un peu multilatéralisme, unilatéralisme, mais jamais, même George Bush n'a été aussi unilatériste que Donald Trump. Donc il ne veut en aucun cas écouter les Européens, pour lui, ce ne sont pas des alliés, mais des vassaux. Et donc, il y a bien sûr l'accord nucléaire iranien, mais on pourrait aussi parler de la décision du transfert de l'ambassade américaine à Jérusalem, de la sortie de l'accord climat de Paris, du retrait de l'UNESCO. C'est vraiment une vision du monde, America first et presque America only qu'a Donald Trump et que ne peuvent pas partager les Européens qui ont eu traditionnellement une approche plus multilatéraliste.
Un dernier point rapidement, Pascal Boniface. Est-ce habile de faire de ce centenaire de la Grande Guerre un manifeste contre le nationalisme ?
Bah, en tous les cas, il faut effectivement marteler au moment où le multilatéralisme est en danger et en crise, il faut rappeler son utilité et même son caractère indispensable.
Merci à vous, Pascal Boniface. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que vous êtes le directeur de l'IRIS. Emmanuel Macron retrouvera cet après-midi Angela Merkel dans la clairière de Rotonde, là où fut signé l'armistice de 1918. C'est la première fois qu'un chancelier en exercice foulera le sol de ce lieu. Puis un hommage aux étudiants et lycéens résistants du 11 novembre 1940 sera rendu conjointement par les ministères de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur demain après-midi, le 11 novembre 1940, à 17h30. Quelques 3000 collégiens et lycéens entonnant la Marseillaise remontaient les Champs-Élysées jusqu'à l'Arc de Triomphe pour fleurir la tombe du soldat inconnu malgré l'occupation allemande. Les habitants du quartier Noailles à Marseille ne décolèrent pas. 5 jours après l'effondrement de 2 immeubles de la rue d'Aubagne, 8 corps ont été dégagés des décombres. Un collectif a vu le jour. De nombreuses critiques ont été formulées à l'encontre de la municipalité et du maire Jean-Claude Gaudin qui s'est défaussé sur l'État, accusé d'entraver notamment les procédures d'appropriation des immeubles insalubres. Colère intacte et en début d'après-midi, une manifestation dans ce quartier où habitent dans des taudis les plus défavorisés. Y participera Carole Lenoble, architecte et membre de l'association Un Centre-Ville pour tous. Elle demande, vous allez l'entendre, tout d'abord des mesures d'urgence.
Nous proposons 3 mesures d'urgence. Donc la première, évidemment, c'est la prise en charge immédiate des familles des victimes et des délogés. Des relogements temporaires en appartement. Parce qu'aujourd'hui, il faut savoir qu'il y a 359 personnes et encore la liste s'allonge tous les jours puisqu'il y a encore des immeubles évacués tous les jours. Donc des relogements de ces personnes en appartement où ils puissent se faire aussi à manger parce qu'aujourd'hui, la réalité, c'est ça. C'est-à-dire qu'il y a des familles entières déplacées, traumatisées, à qui on donne des sandwichs midi et soir et relogées à proximité des écoles aussi. Hein, parce qu'aujourd'hui, ils sont relogés dans des hôtels aux 4 coins du centre-ville. Et surtout, la mesure urgente, c'est l'ouverture par les pouvoirs publics d'une cellule de crise et d'écoute et d'orientation à Noailles, dans le quartier donc où les immeubles se sont écroulés, pour qu'il y ait une entrée unique pour la prise en charge des familles.
Des propos recueillis par Matteo Maestracci. Au Yémen, les combats font rage à Hodeïda, la ville portuaire de l'ouest du pays, aux mains des Houthis et bombardée sans relâche depuis plusieurs jours par la coalition menée par l'Arabie Saoudite. Ce matin, l'on apprenait que cette coalition avait pris le contrôle du plus grand hôpital de Hodeïda. À cet égard, Nabila Hamel a joint Sadek Al-Sar, président de l'ONG basée en France, Salam for Yémen.
L'hôpital du 22 mai a été donc repris par la coalition et ce qui est vraiment inquiétant pour nous parce que nous, les ONG, nous avons demandé à plusieurs reprises d'épargner les civils et notamment les hôpitaux. Donc on ne comprend pas pourquoi il y a des combats acharnés autour de cet hôpital qui est vital pour la ville. Sachant qu'il y a très peu d'infrastructures qui restent fiables et valables au Yémen à cause des bombardements et de l'embargo. Il faut dire qu'il y a 750 000 personnes qui sont parties de cette ville, qui vit un apocalypse actuellement à cause des bombardements incessants par terre, je veux dire, par l'artillerie, mais notamment aussi par les hélicoptères Apache et les F-16. Donc il y a un acharnement sur cette ville et pour nous, c'est très, très dangereux car si le combat continue, on craint que l'aide cesse d'arriver à cette ville ou ce port qui achemine 70 voire 80% d'aide humanitaire qui arrive pour le Yémen.
Les États-Unis ont décidé de mettre fin au ravitaillement en vol des avions de la coalition militaire qui sont sous commandement saoudien. Que pensez-vous de cette décision américaine ?
Nous saluons donc cette décision très très importante parce que si on arrête de ravitailler et d'envoyer d'armement à la coalition menée par l'Arabie Saoudite notamment et aussi les Émiratis, le combat va cesser et ils vont obliger tout le monde à venir à la table de négociation, ce que nous souhaitons vivement. Et en sachant qu'à côté des combats qui durent depuis 4 ans, il y a aussi une menace de famine qui touche 1 Yéménite sur 2. Donc ça veut dire 14 millions de personnes. Vous imaginez quelle catastrophe?
Alors les États-Unis ont certes décidé de ne plus ravitailler en vol les avions de la coalition militaire sous commandement saoudien. Mais en fait, cette même coalition dit qu'elle est en mesure de le faire de manière indépendante. Donc cela veut dire que les bombardements aériens continueront toujours.
Malheureusement, oui. Mais c'est pour ça que nous demandons au gouvernement américain, britannique et français de faire pression sur la coalition. Car ces 3 pays, ils soutiennent militairement, mais aussi politiquement, la coalition saoudienne. Et puis aussi, il faudrait faire pression sur les Houthis et qu'ils arrivent tous à la table de négociation. Donc si toutes les énergies convergent sur cette décision, la paix va revenir au Yémen et on pourrait sauver 14 millions de personnes qui sont menacées de mort à cause de la famine.
Sadek Al-Sahr, président de l'ONG Salam for Yemen.
La bulle économique. Marie Viennot.
Comme convenu, la bulle économique revient sur le bras de fer entre la Commission européenne et l'Italie à propos du budget italien.
Se qualcuno pensa di speculare usando lo spread o usando altro, sappia che c'è un paese pronto a rispondere. Non torneremo indietro di mezzo millimetro.
Le ministre de l'Intérieur n'a pas peur des marchés financiers. Matteo Salvini le dit dans cette interview. Ceux qui pensent pouvoir spéculer avec les taux italiens, ils trouveront un pays prêt à répondre. On ne reviendra pas sur nos décisions. Or, qui pourrait spéculer? On pense aux fonds spéculatifs, c'est leur spécialité, et ils le font d'ailleurs. Mais possible que Matteo Salvini pense aussi à la Commission européenne. Oui, la Commission. Car dans le bras de fer qui s'est engagé entre Rome et Bruxelles sur le budget italien, les marchés financiers sont les arbitres. Plus le bras de fer sera long et tendu, plus les marchés financiers s'inquiéteront et plus la dette italienne sera chère à refinancer. C'est peut-être un pari de la Commission, mais un pari perdant. Car si les taux d'intérêt augmentent trop pour l'Italie, cela aura un effet sur la croissance italienne et tout le monde dans la zone euro y perdra. Le mécanisme est le suivant. Qui dit hausse des taux d'intérêt dit baisse de la valeur des bons du trésor pour tous ceux qui en détiennent. Comme ce sont les banques italiennes qui, aux 2/3, possèdent la dette italienne, plus les taux italiens augmentent, moins elles pourront prêter. Or, si elles prêtent moins, la croissance italienne ralentira. Ce sera donc moins d'activité dans l'économie réelle et un stress supplémentaire dans le milieu financier et ainsi de suite. Le cercle vicieux, le voilà. Pour l'éviter, Rome et Bruxelles doivent se mettre d'accord. Mais c'est très compliqué. Car ce n'est pas l'objectif qui les oppose, mais les moyens d'y parvenir et la mesure des progrès pour y arriver. Oui, la Commission européenne et l'Italie ont le même objectif, réduire la dette italienne qui est la plus élevée du monde derrière le Japon, la Grèce et le Liban. Le ministre des Finances italien, Giovanni Tria, est moins audible que le ministre de l'Intérieur sur ce sujet, ce qui, soit dit en passant, est une incongruité, mais il l'a dit à plusieurs reprises, réduire la dette publique italienne est aussi son objectif. Alors un pays qui veut se désendetter a 2 possibilités. Réduire ses dépenses ou augmenter sa croissance. Et c'est là que Bruxelles et Rome divergent. La Commission européenne préconise la réduction des dépenses budgétaires, l'austérité en somme, et le gouvernement italien croit au contraire en une relance keynésienne. L'augmentation des dépenses publiques fera repartir la croissance, ce qui réduira au final le ratio dette sur croissance. Vous ne découvrez pas ce débat, il revient sans cesse et divise profondément politique et économiste. Le deuxième sujet de désaccord est encore plus difficilement réconciliable. C'est au sujet du déficit structurel italien pour les années à venir. Le déficit structurel, c'est schématiquement le déficit qui reste quand on retire tous les facteurs conjoncturels. Cela permet de tenir compte des efforts faits par un État, même si ces efforts sont anéantis par une crise venue d'ailleurs. C'est du bon sens, c'est une avancée du pacte de stabilité depuis 2013, mais pour le calculer, il faut partir d'un niveau de croissance potentiel, celle qui aurait eu lieu sans la mauvaise conjoncture. Or, pour la mesurer, vous comprenez qu'il faut aligner beaucoup d'hypothèses. Au final, donc, ce déficit structurel est un calcul technocratique, difficilement compréhensible et facilement critiquable. L'Italie conteste donc les calculs faits par la Commission, et elle a de bonnes raisons de le faire. La Commission, elle, conteste les prévisions de croissance du budget italien et elle a raison aussi de le dire. Au final, un dialogue de sourds qui pourrait être évité si on remplaçait les règles budgétaires du pacte de stabilité par des règles plus simples. De plus en plus d'économistes font des propositions en ce sens, y compris des économistes allemands, mais aucun dirigeant européen ne les a encore reprises. patouche au pacte de stabilité au risque de déclencher une crise italienne qui sera dommageable pour tous les pays de la zone euro.
Merci à vous Marie Vienno. La Bulle d'écho à retrouver sur franceculture.fr. Temps couvert et pluvieux sur une grande partie du pays, avec des averses fréquentes et localement orageuses en Corse, en Provence et sur la Côte d'Azur. Température maximale comprise dans l'après-midi entre 11 et 21 degrés. Cette édition a été préparée avec M. Le Chili, à la technique Jean Frédérix.